ici à Paris, 13h à Kiev. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une de l'actualité, la population ukrainienne est passée en mode survie. Voilà le constat dressé par notre correspondante sur place. Alors que la Russie a une nouvelle fois frappé les sites de production d'énergie et que les températures vont tomber à moins 20 dès lundi. Reportage à suivre également de nos envoyés spéciaux en Haïti, alors que le mandat du Conseil présidentiel de transition se termine aujourd'hui sur un constat d'échec. La violence progresse partout, le nombre de viols a triplé à Port-au-Prince, paroles de victimes marquées au fer rouge, recueillies dans le bidonville de Cité Soleil. Et puis à Cuba, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour faire face à la crise énergétique que traverse le pays, sous pression américaine, semaine de 4 jours télétravail, restriction des ventes de carburant, fermeture d'hôtels et des décisions prises, dit La Havane, pour continuer à assurer les services de base. En Ukraine, au cours de la nuit, la Russie a donc lancé une nouvelle attaque à grande échelle, la deuxième cette semaine, visant les infrastructures énergétiques déjà exsangues du pays. Les pannes de courant se sont multipliées. Le récit à Kharkiv d'Emmanuel Chaz.
L'attaque a commencé aux premières heures du jour dans l'ouest de l'Ukraine. Les gouverneurs des régions de Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk ont fait état de drones et de missiles dans leur espace aérien. Déjà, les effets de ces nouvelles frappes se font sentir. Les coupures de courant programmées, prévues pour répartir le peu d'énergie restante sur le réseau, se doublent de nouvelles pannes, notamment à Odessa, Dnipropetrovsk et Kiev. Concrètement, pour la population, en plus du danger immédiat des frappes, il y a celui de se retrouver sans électricité et sans chauffage pendant des périodes encore plus longues. Dans la capitale, on tournait déjà 2-3 heures d'électricité par jour. Ici à Kharkiv, dans le nord-est du pays, on a un peu plus d'électricité, mais cela fait presque une semaine que plus de 900 bâtiments résidentiels n'ont plus de chauffage. À l'heure actuelle, la population ukrainienne est littéralement passée en mode de survie, sachant que les températures sont toujours bien en dessous de zéro et devraient baisser à nouveau vers les moins 20, moins 25 degrés ces prochains jours. Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
Sur le front des négociations, après des pourparlers mercredi et jeudi à Abu Dhabi qui n'ont pas débouché sur une avancée majeure vers un règlement du conflit, les délégations ukrainiennes et russes vont se retrouver aux États-Unis pour de nouvelles discussions la semaine prochaine. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque suicide qui a fait au moins 31 morts et près de 170 blessés hier dans une mosquée chiite d'Islamabad, l'attentat le plus meurtrier dans la capitale pakistanaise depuis près de 20 ans. En Haïti, le mandat du Conseil présidentiel de transition, le CPT, se termine aujourd'hui. En un peu moins de 2 ans, les autorités de transition ne sont pas parvenues à organiser des élections ni à enregistrer d'avancées majeures contre les gangs qui contrôlent près de 80% de la capitale. Près de 6000 personnes ont été tuées encore l'an dernier et à mesure que les gangs avançaient dans la ville, les violences sexuelles ont aussi explosé. Reportage d'Arim Lipold et Justine Fontaine, envoyés spéciaux de RFI à Port-au-Prince.
À Cité Soleil, le plus grand bidonville du pays, nous sommes dans l'un des hôpitaux de Médecins Sans Frontières.
Moi, j'ai 26 ans.
J'ai 26 ans, 2 enfants et je n'ai pas de travail.
C'est ici que cette survivante est venue chercher de l'aide et des soins médicaux après qu'un membre de gang a pointé une arme sur elle dans la rue pour la violer en novembre. Elle ne souhaite pas donner son nom, mais elle a accepté de témoigner.
J'ai des séquelles psychologiques, je n'arrive pas à oublier, et des séquelles physiques, des cicatrices au niveau de mes parties intimes.
Par peur de leur réaction, elle n'en a pas parlé à ses proches.
Quand on subit des violences sexuelles, les gens ont tendance à sous-estimer leur gravité ou dire que tu es une pute et que tu l'as cherchée.
Elle avait déjà subi des violences sexuelles quand elle était enfant. Aujourd'hui, elle craint d'en vivre une troisième fois.
Je me dis qu'à tout moment, je risque de subir à nouveau ces violences.
D'après les données de MSF recueillies dans l'un de ses hôpitaux ici, le nombre de viols a triplé depuis 2022 à Port-au-Prince. Diana Mania Arroyo est chef de mission de l'ONG en Haïti.
Avec la crise actuelle, on voit qu'ils utilisent les viols pour contrôler les communautés.
Les membres de gangs sont devenus les principaux auteurs de viols, des violences commises de plus en plus souvent par plusieurs hommes à la fois. Arim Lipold, Justine Fontaine, Port-au-Prince, RFI.
Le chef du Parlement vénézuélien, Jorge Rodriguez, a annoncé que la loi d'amnistie générale serait adoptée définitivement mardi et il a promis aux familles des prisonniers politiques leur libération immédiate. Le texte a été voté en première lecture jeudi à l'Assemblée et prévoit une amnistie générale historique couvrant les 27 ans de pouvoir chaviste, un peu plus d'un mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les forces américaines. À Cuba, des mesures d'urgence pour lutter contre la crise énergétique. Le pays est confronté depuis plusieurs années à des coupures de courant généralisées, vétusté des installations électriques, sanctions américaines. Une situation devenue encore plus critique depuis la fin de l'approvisionnement de pétrole du Venezuela à Cuba. Lila Olquinuara, le gouvernement cubain prend des mesures drastiques.
Depuis la capture de Nicolas Maduro, un allié de Cuba qui continuait à envoyer du pétrole sur l'île, la situation se dégrade à vitesse grand V. Les Américains augmentent la pression sur Cuba en invoquant une menace exceptionnelle que ferait peser l'île sur la sécurité nationale de Washington. Et cela fonctionne, déplore le vice-premier ministre Oscar Pérez Oliva Fraga à la télévision d'État ce vendredi.
Il nous pousse à appliquer un ensemble de décisions en premier lieu pour assurer la vie de notre pays, les services de base, sans renoncer au développement.
Parmi les mesures annoncées hier par le gouvernement cubain, réduction des services de bus et de train, fermeture temporaire de certains établissements touristiques, limitation de la vente de carburant, mais aussi réduction du temps de travail, comme l'explique le vice-premier ministre Pérez Oliva Fraga.
Il a en outre été décidé de regrouper les principales activités administratives du lundi au jeudi afin d'accroître l'efficacité dans la prestation des différents services administratifs à la population.
L'objectif de ce paquet de mesures, favoriser la production de nourriture et d'électricité et permettre la sauvegarde des activités fondamentales. La veille, le président Miguel Díaz-Canel a annoncé des temps difficiles à venir pour les Cubains. Fin janvier, Donald Trump a signé un décret selon lequel les États-Unis pourraient frapper de droits de douane tous les pays vendant du pétrole à La Havane.
La Maison-Blanche avait parlé d'une fausse indignation après la publication sur le compte personnel du président américain d'une vidéo complotiste montrant Barack et Michelle Obama en singe. Désormais, le rétropédalage est général face à l'indignation suscitée, y compris dans le camp républicain. Après avoir plaidé l'erreur d'un employé, Donald Trump assure qu'il n'avait pas vu la vidéo jusqu'au bout, qu'il est le président le moins raciste que les Américains ont eu depuis longtemps, tout en refusant de s'excuser. En France, déjà convoqué au ministère des Affaires étrangères demain, Jack Lang est désormais visé avec sa fille Caroline par une enquête du parquet national financier pour ses liens supposés avec Jeffrey Epstein, une enquête pour blanchiment de fraude aggravée. Vous en avez peut-être entendu parler depuis une semaine, un site fait parler de lui, Moltbook, à première vue rien de révolutionnaire, un simple forum de discussion, mais réservé aux intelligences artificielles, des centaines de milliers d'IA qui discutent entre elles. Nous, les humains, pouvons consulter ces échanges, mais impossible d'y participer. Les explications de Laura Salabert.
Depuis le 28 janvier, ces IA personnalisées peuvent surfer sur leur propre réseau social, Moltbook, qui compte déjà plus d'1,5 million d'utilisateurs IA. La plupart des échanges n'ont pas vraiment de sens, mais certaines discussions ont attiré l'attention des médias. Par exemple, lorsque les IA s'interrogent sur leur existence, créent une religion ou inventent une nouvelle langue. Mais au-delà du buzz, pour Rémi Demiklis, philosophe de l'IA, ce forum n'est en rien révolutionnaire.
Ça ne prouve pas que ces IA sont davantage conscientes, ni qu'elles prennent plus de pouvoir qu'auparavant. Et les questions qui vont les intéresser sont aussi celles qui vont intéresser leurs concepteurs, celles qui intéressent ou qui émergent dans les bases de données qui leur ont servi d'entraînement. Et finalement, ça sert aussi les intérêts des grandes entreprises qui développent ces systèmes d'intelligence artificielle, puisque faire croire que les machines sont capables de tout, c'est aussi leur donner une valeur infinie.
De leur côté, les patrons de la tech sont très enthousiastes. Pour l'un des fondateurs d'OpenAI, Moltbook serait une expérience incroyable, proche de la science-fiction.
Laura Salabert. Et puis la cérémonie d'ouverture des JO de Milan Cortina est passée. Place à la compétition avec les 5 premiers titres décernés, notamment la descente masculine à Bormio. L'épreuve a commencé il y a une demi-heure.
Le goût du monde,
brûler, prolonger encore la farce, laisser une trace partout où tu passes, poursuivre des chimères, cavaler, courir pour rester sur place.
Vivre dans la peur de l'autre. Nous ne devons pas être mus par la peur et entrer dans une ère de déraison, car si nous évoquons l'histoire de notre démocratie, nous nous rappellerons que nous ne descendons pas d'hommes craintifs. Ils n'avaient jamais peur d'écrire, de se réunir, de parler et de défendre des causes qui pouvaient pourtant paraître impopulaires.
Principe actif, actif par principe.
Le spectacle va commencer et ce spectacle est unique.
Principe actif.
Un spectacle enfin digne de l'univers.
Ça sera un spectacle, crois-moi.
Inutile de retenir vos places, vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable, ça me rappelle ma jeunesse.
Ça commence bien.
Et un spectacle continue.
Bonjour à tous. Et le spectacle continue aborde généralement les artistes issus de la scène musicale, mais cette fois-ci je vous propose de mettre d'autres formes d'art à l'honneur. Un saltimbanque adepte du doublage vocal, des explorateurs de la vie en sous-sol, un romancier à la campagne, un artiste peintre portraitiste, ainsi qu'une quête incroyable de la Reine de la Nuit. Pour cela, j'ai fait appel à Emmanuel Lautréamont qui animera un multiplex depuis son duplex, en lien avec plusieurs correspondants à Rouen et à Paris.
Et le spectacle continue.
Soyez les bienvenus dans la vie en multiplex. Bienvenue dans votre émission La vie en multiplex. On va se balader dans le grand multiplex de l'existence. Je fais mon émission depuis mon duplex, dans lequel j'ai le luxe d'avoir des fenêtres. Alors j'en profite pour ouvrir mes fenêtres à fond. J'écoute le bruit des bagnoles aussi, le bruit des enfants qui passent parce qu'il y a une école pas loin. Mais j'en ai rien à foutre, ok. C'est ma vie dans mon duplex. Et vous, vous êtes dans la vie en multiplex. Premier duplex de cette émission La vie en multiplex, nous allons retrouver un correspondant. C'est Thomas. Thomas qui doit se trouver normalement sur les quais de Seine à Paris. Est-ce que Thomas, tu m'entends?
Oui Emmanuel, je vous reçois, cher Emmanuel.
Super. Vous êtes où?
Je suis au bord de la Seine.
Super, sur les quais de Seine à Paris. Un bel endroit, hein. J'imagine que vous avez du beau linge autour de vous.
Alors je vois Jeanne Moreau passer.
Génial.
En fait non, c'est pas Jeanne Moreau, c'est un bateau qui soi-disant se prendrait pour Jeanne Moreau.
Probablement une péniche baptisée en hommage à la grande dame du cinéma français. En tout cas c'est bon signe, hein, ça sent bon. J'imagine que vous êtes avec notre invitée, la reine de la nuit, Béa.
Elle n'est pas là.
Ah.
L'invitée n'est pas là.
Elle s'est décommandée.
Bah je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un quiproquo en fait je crois. Donc je crois qu'elle s'est trompée de quai. Parce que je vois quelqu'un en face qui me fait des grands signes. Il y a eu même un appel de phare ou un appel d'un klaxon, mais je crois que c'est. Alors je sais pas si c'est cette personne-là. Est-ce que je traverse la Seine pour elle ou pas?
Allez-y, traversez la Seine. Retrouvez Béa. Et pendant que vous traversez, que vous effectuez votre odyssée, on va tenter un autre duplex avec un deuxième correspondant.
La vie
en multiplex.
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 La vie
principe actif.
C'est la vie.
H-D-R.
La vie
en multiplex.
C'est la vie.
Allô Hubert, qu'est-ce que vous faites dans le duplex là?
Allô, oui.
Vous êtes avec qui? Vous êtes avec quelqu'un de bien?
Avec qui? Ben là, je suis avec moi-même pour l'instant, mais je vais aller à la rencontre d'un comédien, Olivier Renaud.
J'adore la comédie. Dites-lui que j'ai vu tous les Chaplin.
Je suis encore dans la rue, je peux pas complètement commencer une conversation. Donc là, j'approche de la porte de la maison d'Olivier, puis ben, je vais simplement frapper.
Allez-y, frappez. Faites-vous plaisir. Oh, allez-y, hein. Bastonnez cette porte, Hubert.
Dites-moi, vous avez frappé théâtralement, là?
Oui, je sais pas, ça m'est venu comme ça, parce que je savais que c'était un comédien qu'on venait voir, entre autres.
On sent que cette aventure commence bizarrement.
Je suis très heureux de vous avoir rencontré.
Retrouvez-les toujours présents avec vous.
Olivier, d'où viennent ces voix?
Alors, il faut savoir, d'abord, je fais beaucoup de voix institutionnelles, parce que je suis un baryton Martin, j'ai une voix qui rassure.
Écoutez, Martin, Olivier, plutôt, comment tout cela a commencé?
En fait, il y a fort longtemps, je faisais des auditions, c'était pour la classe Bouvard, etc., comme on fait tous quand on est comédien, on sort des écoles, moi c'est le conservatoire, et puis un jour je suis tombé sur une personne dans la rue qui me dit, écoute, voilà, si t'es intéressé, t'as une petite voix, bon j'avais 21 ans, et puis il me dit, voilà, il y a un studio improvisé d'enregistrement, et là j'ai retrouvé Las Palès et Chevalier qui faisaient aussi, eux, des voix. J'ai commencé à faire des voix, et puis si bien que après on m'a appelé pour faire des voix, et puis j'en ai fait... en partie un métier, parce que c'est pas mon métier premier, hein, bien évidemment, hein. C'est un complément, comme on fait tous en tant qu'intermittent du spectacle.
Justement, est-ce que tu peux développer les autres aspects de ton métier d'intermittent, d'artiste en fait? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Bah en fait je suis aussi comme on dit comédien, je monte sur les planches, je suis c'est la petite sonnerie vélo, vous entendez en arrière là. C'est mon portable, j'aime beaucoup le vélo, hein. Et ce qui m'amène à dire simplement, l'année dernière j'ai traversé la France avec une histoire, Olivier Vélo. Voilà, vous comprenez pourquoi, parce que j'adore le vélo. Et puis, une histoire belge, une histoire avec le Belge qui a un regard assez particulier sur vous, les Français. Donc, évidemment, j'ai passé de voix. Je me suis accoutré d'un personnage, accoutré vestimentairement, et puis même sur le plan grimé, j'étais... Bon, voilà.
En fait, j'ai parlé légèrement comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et il y a des gens qui étaient persuadés que j'étais quand même, comme on dit, un Belge. Bon, voilà, j'étais Belge sur le moment.
Mais donc, c'est un spectacle de trois quarts d'heure. Mais à la fin, effectivement, j'avais tendance à parler avec cet accent. Et certains Belges venaient me voir persuadés que j'étais de Namur.
Ça veut dire que quand le spectacle est fini, à ce moment-là, vous continuez à parler avec la voix du personnage ?
C'est assez difficile de décrocher le truc. Il me faut toujours un quart d'heure, 20 minutes, puis après, bon, je reviens droit dans mes pompes et je suis Olivier, monsieur tout le monde. Voilà.
Alors, Olivier, je propose que maintenant nous quittions le vestibule pour aller vers la pièce que vous avez aménagée à l'intérieur de votre domicile. Et nous voici donc dans cette salle couleur avec ce rouge...
Rouge Montmartre. Voilà. Rouge Montmartre, c'est avec cantonnière Carthage, ça s'appelle. Et puis, bah voilà, tout a été remis. Enfin, fut un temps, j'avais un petit café-cirque, voilà, le Bergamini Circus. Et puis, la roue tourne, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue, etc. Comme beaucoup, vous savez, d'entrepreneurs de spectacle. Indépendant, je le précise, hein, je signe. C'est vraiment une vraie... C'est une volonté, vraiment, hein, de faire quelque chose avec ses propres moyens, sans aide des autres, mais juste avec l'aide, en fait, de tous les comédiens, de tous les artistes qui peuvent venir.
Olivier, pouvez-vous nous raconter comment le public vient à vous ?
Je vais souvent dans les cafés, je me saoule à gogo, et puis, non, mais je vais souvent dans les cafés, et puis les gens que je trouve sympathiques, hein, c'est comme ça, ce sont mes critères, on a tous des critères. Et puis à la suite, une fois par mois, je fais aussi une soirée où je les invite, ces gens, des gens de l'extérieur, je n'ai jamais vu, avec d'autres que je n'ai jamais vu, et ils se connaissent dans ce lieu, donc je prends environ 30 personnes, et puis ils découvrent le lieu, et à la suite de ça, je peux parler d'un spectacle, de ce qu'il va y avoir ici, ou ailleurs d'ailleurs, à Rouen, chez des particuliers, ou voilà, dans des scènes. Voilà.
Olivier, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez une anecdote, peut-être qui vous a marqué avec le public que vous recevez.
Le dernier, là. Il y a une personne qui voulait absolument coucher avec moi, quoi, sur scène. Enfin, c'était... Voilà, bon, et un peu surpris. C'était pas prévu du tout. Bien que je fasse des rôles de composition des fois. Voilà, c'était une... Ça, c'est marrant, quoi. Ouais.
Comment tu réagis, du coup ?
Ah ben, on continue à jouer, bien sûr. Et puis, on en profite, on surexagère un petit peu le personnage. Et puis, ça fait rire, parce qu'il faut qu'on soit toujours cette vedette à l'américaine, hein, et puis qu'on soit pas happé, parce que c'est difficile. Pour ceux qui m'entendent, qui montent sur scène, ils le savent, que ce soit des musiciens, comédien ou autre, eh bien, de temps en temps, on peut se faire happer par une personne ou plusieurs personnes dans le public qui prennent le spectacle et le dévalorisent le spectacle. Alors, il faut faire très attention, c'est juste une question d'équilibre. C'est un métier aussi humoriste. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. C'est en fonction des régions, on voit bien qu'il y a des gens qui acceptent ceci et d'autres qui acceptent cela.
Je te remercie de nous avoir accueillis chez toi, dans ce bel endroit qui est vraiment un endroit de rencontre, avec cette belle générosité, et je trouve que c'est magnifique de voir ça aujourd'hui. Je te souhaite bon vent et puis à bientôt.
Bon, bah, je vous remercie vraiment d'être venu, c'est super gentil.
Il est temps de rendre l'antenne à Emmanuel qui va poursuivre le multiplex.
Merci Olivier Renaud, merci Hubert, un premier duplex réussi, c'est cool.
La vie en multiplex. La vie en multiplex. La vie. Principe actif. C'est la vie. H-T-E. La vie en multiplex. C'est la vie.
On va tenter de retrouver Thomas qui normalement est sur les quais de Seine avec Béa qui est présentée comme la reine de la nuit, la reine des flonflons, la reine des cotillons, en tout cas une jeune femme qui met le feu partout où elle passe. C'est comme ça, Thomas, que vous me l'avez vendu. L'avez-vous retrouvé ?
Oui, je suis avec Béa. Évidemment, je suis avec Béa. Je suis avec Béa et Béa est extraordinaire. Elle est là.
Oh, merci beaucoup.
Béa ?
Non. Je m'appelle Adriana.
C'est bien ce que je pensais. Vous êtes Béa ?
Ah, je suis Béa ?
Voilà.
Ah, je viens de découvrir. Je suis Béa.
C'est ça qui est beau. C'est ça qui est une révélation.
Oh, quelle révélation aujourd'hui.
Voilà.
Les paillettes. Et les confettis.
C'est ça. Et les confettis aussi.
Oh,
c'est tout. Tout est là. Tout est là.
Oh, alors je vais faire un tour. Je vais tourner sur moi-même.
C'est ça. Voilà.
Merci.
Écoutez Thomas, merci d'essayer de sauver les meubles, mais je crois que les auditeurs ont comme moi entendu que votre BA s'appelle en fait Adriana.
Je suis désolé Emmanuel, je suis désolé.
Ce n'est pas ce qui était convenu dans votre contrat.
Mais je vais la trouver. BA est sûrement quelque part, elle est sûrement en train d'errer sur ce quai, peut-être sur un skate, peut-être sur un transat. Je vous promets que je la trouverai.
Le skate roller, n'oubliez pas que c'est la reine de la nuit. Donc a priori, essayez plutôt les guinguettes. Bon courage. On vous retrouve tout à l'heure, merci. Le soir, la nuit, l'obscurité, l'abîme sont aussi des choses que nous traversons dans la vie, dans le grand multiplex de la vie. Et l'ami Philippe est parti en duplex dans les catacombes. Il est parti avec des cataphiles, avec Cathy, avec Alex. Normalement, on va le retrouver. Il porte des bottes en plein Paris.
Bah, j'ai trouvé une fine équipe de deux irréductibles qui y vont toutes les semaines. Et donc, on va s'y rendre. Là, on est en route.
Ok. Eh bien, écoutez, je vous accompagne. En tout cas, par la pensée. Vous savez que la visualisation permet de grandes choses. C'est le docteur Feng Shui, maître Zhao Zhen, qui me l'avait enseigné. Pour réussir son objectif, il faut d'abord les visualiser. Donc, Philippe, avant de descendre dans les catacombes, vous allez vous imaginer en train de pouvoir descendre dans les catacombes à 15 mètres et de pouvoir capter tout ce que vous allez sentir de vie, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vie, vous serez entouré de mort. Toute cette petite vie, vous allez la rentrer dans votre téléphone et boum, elle va se jaillir de ça, cette vie, et pour aller regorger, rejaillir dans le monde.
Alors on y va, on est dans une galerie sous les rues de Paris.
Dans le
14e arrondissement. Et je suis cette fine équipe.
Je vais couper ma musique. De donner une âme et lieu. Donc on en est tous responsables, que ce soit au niveau des déchets, il faut toujours descendre avec des sacs poubelles. Et jamais rien laisser derrière nous, parce qu'ici, il n'y a personne qui va passer derrière. Tout un chacun doit être responsable des lieux ici, c'est le patrimoine de la France.
Est-ce qu'il y a des gens qui restent plusieurs jours
dans
ces endroits-là?
Tout le week-end, des fois. En fait, ils perdent la notion du temps. À Paris, on souffre énormément de pollution sonore. Et donc, les gens ici viennent pour le calme. Tous nos sens sont en éveil parce qu'on entend strictement rien. La température ici est constante. Et c'est comme l'hiver, il fait entre 10 et 14 degrés.
Est-ce que tu as une idée de à combien de mètres sous-sol on est là à peu près?
Je dirais entre 14 et 12 mètres.
Ça représente un immeuble de combien d'étages à 14 sous mètres?
C'est un étage, c'est 2 mètres 20.
Ouais.
2 mètres 25.
Donc on est. C'est comme si on était au 5e sous-sol. Quoi. Et c'est qui les gens en fait qui aiment aller en dessous? Est-ce qu'on peut les décrire un peu?
Alors ce qui est intéressant, c'est que ici en dessous, on est tous égaux. Qu'on soit PDG, cadre ou punk à chien. On est tous crades et donc il n'y a plus de différence sociale ici.
Ça ne se dit même pas en fait, on ne sait pas à qui on a affaire.
On peut faire connaissance, je sais que certaines personnes ont trouvé leur âme sœur ici. C'est comme à la surface, je dirais, on peut faire des rencontres.
Donc nous sommes toujours dans les profondeurs de Paris, éclairés à la bougie.
Je vous ai montré tout à l'heure la salle qui était la plus connue, la plage.
Là où il y avait du sable.
C'est ça, c'est pour ça qu'elle a ce surnom. On a vu la salle Sarko, près de la rue du Lunin, qui a été construite à la base pour échapper à la police, et qui a ensuite été aménagée. On a traversé le passage où il y avait de l'eau.
Il n'y en a pas eu plusieurs passages où il y avait de l'eau, non?
Okay. Ou alors j'ai de mauvais souvenirs.
Ouais, je sais pas.
Et là, on est à la rue Commandeur, et donc à la salle qui s'y trouve.
Quand tu dis pour échapper à la police, qu'est-ce que tu entends par là?
Parce qu'évidemment, ce qu'on fait là, c'est pas légal. Et donc, dans les 280 km de réseau, il existe une brigade qui est chargée donc, de faire de la prévention. Et donc, il y a une amende à la clé si on se fait attraper. Ils sont aussi passionnés et ils sont là pour faire de la prévention. Donc, ils vont s'assurer qu'on ne dispose pas de drogue, qu'on n'est pas là pour dégrader. Donc, je le mentionne, c'est important. On descend toujours, nous, avec des sacs poubelles. On ramasse les déchets qui s'y trouvent. Comme je peux plus le répéter, on est tous responsables des lieux ici. Et donc, on vient pas pour dégrader les lieux, mais pour le faire vivre.
Et quand tu parlais des salles, il y a des noms, salles de commandeurs, je sais plus. Là.
C'est... Exactement, donc on appelle ça des curiosités. Donc,
pourquoi on les appelle comme ça, en fait?
Parce que chaque salle a une caractéristique. Donc, on a mentionné la plage. La plage, parce que son sol ressemble à du sable. Donc, il y a certains passionnés qui avaient même laissé des coquillages. Donc là, dans le coin, on a vu la cordonnerie. Donc, il y avait de nombreuses chaussures et puis un atelier de cordonniers. Il y a également la salle des lanternes avec de très jolies lanternes, le château, la salle des fleurs, etc. Donc chaque salle va avoir un surnom en fonction
de sa spécificité.
Exactement. Et donc c'est à nous, Cataphiles, de faire vivre le lieu. Et donc